Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
À quelles conditions puis-je reconnaître l'autre comme mon semblable, comme mon alter ego ? Cette question, elle est posée bien sûr dans de très nombreux films. J'ai revu récemment avec mes élèves l'excellent Freaks de Todd Browning. Elle est posée aussi dans beaucoup de westerns. En fait, on pourrait dire que la figure de l'autre hante le cinéma américain. Et notamment la figure de l'autre, bien sûr, c'est la figure de l'Indien. Ce qu'on constate dans l'histoire du western, c'est qu'il y a effectivement, comme on peut s'y attendre, beaucoup de films très manichéens, hein, où il y a d'un côté les blancs, disons les cow-boys, et de l'autre les indiens. Les cow-boys contre les indiens, c'est un classique. On a ici une variation un peu binaire, un peu naïve du choc des civilisations. Et dans beaucoup, beaucoup de films, d'ailleurs, les contacts entre les blancs et les indiens sont réduits à des scènes de violence. Mais par ailleurs, beaucoup de films introduisent une certaine subtilité dans ce manichéisme et complexifient les catégories. Alors il y a plusieurs processus qu'on peut observer. Le processus du métissage, par exemple, un individu appartenant d'une certaine manière aux deux catégories. Les processus aussi de changement de culture, la façon dont un individu va s'intégrer à une autre culture que la sienne. Et puis aussi la façon dont certains films montrent les tensions internes, tensions entre les blancs, tensions entre les Indiens de différentes nations et tensions aussi, bien sûr, entre les membres d'une même tribu indienne. Un film peut aussi montrer, d'ailleurs, la façon dont un individu se sent étranger à sa propre culture et donc, d'une certaine manière, étranger à lui-même. C'est le cas d'Un homme nommé Cheval, d'Eliot Silverstein, film de 1970, où dès le début du film, on se rend compte qu'il n'est pas possible de parler des Blancs comme d'une entité homogène, puisque le lord anglais, Morton, se sent complètement étranger en fait au monde des trappeurs qui le promènent dans l'Ouest et il se rend compte qu'il a des codes complètement différents, des valeurs complètement différentes de ces trappeurs. On peut même dire que Morton, d'une certaine manière, au début du film, se sent en partie étranger à lui-même et il évoque lui-même d'ailleurs un certain désœuvrement, un certain vide, hein, un désœuvrement aristocrate qui fait qu'en fait ça va faciliter justement sa transformation et son devenir indien, disons, puisque le film porte justement sur cette métamorphose en indien.
Ça en fait combien ?
6 000 ans.
Madoc ?
Ah, pardon.
John, je t'ai dit de m'appeler John.
Oui, John. Ça m'arrivera plus.
Tu l'oublies au moins une fois par jour. Combien de semaines faudra-t-il pour faire rentrer ça dans ton crâne ?
Ah, pardon, Miller. John.
On pourrait faire ici un parallèle aussi avec Danse avec les loups, hein, de Kevin Costner, 1990. Là aussi, le processus initiatique que John Dunbar va subir commence bien avant, en fait, sa rencontre avec les Indiens. Il commence justement dans ce sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même et par rapport aux Blancs, enfin, par rapport à sa civilisation. Et d'ailleurs, Costner filme assez bien l'avancée vers la frontière, qui est en fait aussi une avancée vers la folie, vers la déraison. Et le fou, c'est aussi une figure de l'altérité, alors de l'altérité radicale pour le coup. Hein. Je vous renvoie à la scène où il rencontre un officier à Fort Hayes, un officier qui se surine dessus, qui réclame sa couronne et qui proclame « le roi est mort hein, ». Il dit « le roi est mort ». Et puis il se tire une balle dans la tête. Cette scène est absolument délirante et elle participe comme ça du dérèglement de la perception, du dérèglement du rapport au monde, qui va donc faciliter justement la transformation de John Dunbar. Autre exemple aussi, toujours dans le même film, le personnage qui accompagne John Dunbar vers la frontière est lui aussi perçu comme un alien et non pas comme un alter ego. C'est un archétype de la vulgarité, il pète, il rote, il est complètement répugnant. Et d'ailleurs, Kevin Costner, John Dunbar en l'occurrence, dit « Sans lui, je vivrai l'aventure de ma vie. »
Mets-le dans ton bouquin, celui-là!
Donc on sent bien en fait que l'expression « se sentir blanc » ou « être blanc » n'a pas beaucoup de sens dans le western forcément. Et d'ailleurs les westerns les plus intéressants, notamment ceux qu'on a appelés les westerns révisionnistes. Alors on sait qu'en France aujourd'hui le mot révisionnisme est marqué du sceau de l'infamie puisqu'il est associé aux historiens qui nient l'existence des chambres à gaz et du génocide de Deuxième Guerre mondiale. Mais le western révisionniste, c'est au contraire un western critique, un western qui veut écrire l'histoire de l'Ouest différemment de la version officielle, de la version dominante et patriotique telle qu'elle a été souvent montrée. Donc les westerns révisionnistes vont justement montrer que l'univers des Blancs n'est pas homogène. On peut citer par exemple La Porte du Diable, western de 1950, le premier western d'Anthony Mann, qui a joué un rôle essentiel dans cette complexification, je dirais, des catégories, où Mann en fait présente deux figures quasiment symétriques et opposées, deux avocats, Coulan d'un côté, un homme, Mademoiselle Masters de l'autre, et qui ont en fait des attitudes complètement opposées, des valeurs complètement opposées par rapport aux Indiens. Autre exemple classique aussi, les Cheyennes, le tout dernier western de John Ford, 1964. Et là aussi, on voit que Ford prend beaucoup de soin dans les Cheyennes à filmer les tensions internes au monde des Blancs, par exemple tension entre le capitaine Thomas Archer, qui est joué par Richard Widmark, et les autres gradés de l'armée américaine, tension entre les commandements militaires, entre le commandement militaire, entre le lobby financier d'un côté, et de l'autre côté avec le ministre de l'Intérieur, qui est joué par Edward J. Robinson, qui est une figure, lui, de médiation et de tolérance. Et d'ailleurs, cette idée aussi d'une fragmentation du monde des Blancs est montrée aussi avec les Quakers, hein, bien sûr, qui sont montrés en fait par le lobby financier et militaire comme des ennemis de l'intérieur. Et la figure du ministre de l'intérieur, justement, Edward J. Robinson, est assez intéressante parce qu'elle met en abîme la figure de l'autre. L'autre, c'est l'Indien, mais l'autre, c'est aussi le noir, c'est aussi l'esclave noir. Il y a une très belle scène où le ministre qui est face à un cas de conscience en fait s'approche du portrait de Lincoln. Le visage d'Edward J. Robinson se fond avec celui de Lincoln dans le miroir, enfin dans le reflet, et il lui dit « Et toi, qu'aurais-tu fait ?» Hein, comme si la question en fait des Indiens renvoyait aussi à celle des Noirs et de l'esclavage. Alors symétriquement, toujours dans les Cheyennes, Ford montre les divisions dans le camp indien. Le film de Ford d'ailleurs est un film très très marqué par l'idée de symétrie, à la fois narrative, à la fois au niveau des personnages et puis même visuellement, puisque la plupart des plans, si vous revoyez le film, sont organisés autour d'une ligne verticale qui sépare le plan en deux. Ça peut être les messas de Monument Valley, ça peut être des drapeaux, des pylônes, des piquets de tente, etc. Et donc chez les Cheyennes, lorsque le vieux chef meurt, eh bien le pouvoir est partagé très symboliquement entre deux jeunes chefs, Petit Buffle et Dain Agile, qui vont présenter en fait deux stratégies très différentes et notamment deux visions différentes du rapport aux Blancs. Hein, comment est-ce qu'il faut agir avec les Blancs? Est-ce qu'il faut chercher le compromis ou bien est-ce qu'il faut au contraire chercher l'affrontement? Alors ça, c'est un grand classique des westerns qui veulent échapper au manichéisme, hein, c'est de montrer d'une certaine manière que chez les Indiens, il y a aussi des tensions et qu'il peut y avoir un bon Indien et un mauvais Indien éventuellement. On y reviendra.
Mais qu'est-ce qui se passe? Où vont-ils?
Ils vont se battre.
Attendez un instant. Parlez à Dain Agile, je sais que vous pourrez le convaincre.
Non, je ne peux rien. Je ne peux rien.
Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver dans un western aussi majeur de ce changement de tonalité, hein. C'est La Flèche brisée d'Elmer Daves, 1950. Alors là aussi, les tensions à l'intérieur des Apaches sur la stratégie à suivre avec les Blancs sont très marquées avec les deux figures fortement symbolique d'un côté de Cochise, qui cherche à négocier, qui cherche le compromis, qui cherche à accepter cette idée de réserve indienne, et puis de l'autre, Geronimo, qui lui est dans une certaine radicalité, dans une recherche de l'affrontement. Alors bien sûr, avec le recul et vu ce que sont devenues les réserves indiennes aujourd'hui, on peut se demander auquel des deux l'histoire a finalement donné raison. Puisque dans le film de Dave, il semblerait que ce soit Cochise qui soit le bon, qui fasse les bons choix. Or, peut-être que le fait d'accepter les réserves était quand même un choix lui aussi discutable. Alors la figure dédoublée, de l'Indien va se retrouver aussi justement dans Danse avec les loups, avec d'un côté Cheveux au vent, qui lui incarne le rejet, le racisme, l'intolérance, et de l'autre Oiseau bondissant, qui est joué par Graham Greene, un acteur amérindien très célèbre, qui lui incarne la curiosité, la bienveillance, le bénéfice du doute, disons, hein, ce blanc qui arrive comme ça, il se dit on peut peut-être l'observer et essayer peut-être même de rentrer en contact avant de le tuer. Et d'ailleurs, c'est quand les Indiens vont se rapprocher donc de John Dunbar, qui va s'appeler donc ensuite Danse avec les loups, eh bien c'est justement Cheveux au vent, donc celui qui le rejetait en fait le plus violemment, qui va devenir son plus fervent défenseur, puisque ce film, Danse avec les loups, est essentiellement un film justement sur l'apprivoisement. Hein, comment passer du statut d'alien, du statut d'autre qu'on n'arrive pas à percevoir comme un semblable, au statut d'alter ego, au statut de quelqu'un qu'on va reconnaître comme étant notre semblable d'une certaine manière. Le film Danse avec les loups insiste beaucoup aussi sur les tensions entre les nations indiennes, hein, notamment entre les Pawnees et les Sioux. Et donc là aussi, on se rend compte que de même, tout à l'heure on le disait, il est impossible de parler des Blancs en général, on ne peut pas parler des Indiens, ça n'a aucun sens. Les Indiens ne forment pas une entité homogène et monolithique, et penser ça serait simplement le fruit d'un ethnocentrisme très 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 naïf. Et donc pour terminer un petit peu sur cet inventaire, on peut noter aussi que les westerns, justement les plus complexes, aiment les figures inclassables. C'est-à-dire des personnages qui seraient autres de tous les points de vue, qui seraient autres à eux-mêmes et qui seraient autres de partout. Par exemple la figure du métis. Là, on peut penser à Martin dans La prisonnière du désert. La figure aussi du blanc qui a été assimilée chez les Indiens. Alors là il y a la figure de Baptiste par exemple dans Un homme nommé cheval, qui est très intéressant parce que c'est un blanc qui est devenu indien d'une certaine manière, mais qui joue la folie. Parce qu'il dit en fait les fous, chez les Sioux, sont considérés comme des intermédiaires avec les dieux, et donc il est doublement autre, hein. Il est ni blanc ni indien, et puis en plus, c'est un être inclassable aussi, parce que sa folie en fait un être qui est capable de communiquer avec les dieux. Autre figure aussi, bien sûr, c'est l'indien assimilé chez les blancs, et là on peut penser à la porte du diable que je citais tout à l'heure, puisque lorsque le vieux père indien retrouve son fils, qui est devenu soldat pendant la guerre de sécession, eh bien, il ne le reconnaît quasiment pas. Et il lui apparaît comme son fils, son propre fils, lui apparaît tout d'abord comme un étranger. Autre exemple célèbre auquel je vous renvoie bien sûr, c'est Little Big Man d'Arthur Penn. Là, il y a un film qui pousse d'une certaine manière jusqu'à l'absurde l'idée d'un individu absolument inclassable, absolument étranger partout, et qui finalement n'est nulle part chez lui, et qui est complètement... impossible à caser dans une catégorie blanc, indien, etc. Je finirai par mes films favoris, Dead Man de Jarmusch, 1995, qui là aussi propose plusieurs variations sur ce thème de l'autre. D'abord avec le personnage de Nobody, de personne, qui est métisse et qui dit lui-même qu'il est à la fois étranger au monde des blancs et étranger au monde des indiens, et que donc finalement il est condamné à la solitude. Le personnage joué par Johnny Depp lui-même, qui est étranger non seulement aux autres, puisque finalement c'est un personnage qui communique très très peu dans le film, mais surtout qui est étranger à lui-même, puisque le film Dead Man est basé sur une mise en question, une mise en crise de la conception d'un sujet, d'un individu qui serait parfaitement unifié, donc un sujet cartésien, disons, on pourrait dire. Hein. Donc la figure de Johnny Depp dans ce film est complètement dispersée, hein, il est étranger à lui-même. Et puis bien sûr aussi, chez Jarmusch et assez finement, Jarmusch filme l'impossibilité d'opposer frontalement nous et les autres, les blancs et les indiens, etc. Puisque Jarmusch va rechercher en fait des correspondances cachées entre les cultures amérindiennes d'un côté, et puis de l'autre côté, la poésie de William Blake, un poète anglais, donc occidental, blanc, du 19e siècle. Alors ce thème de la correspondance, de l'échange, on le retrouvera dans la toute prochaine chronique, où j'essaierai d'évoquer, toujours dans ces films, dans ces westerns qui donnent aux Indiens une place tout à fait particulière, j'essaierai d'évoquer l'importance de l'échange, de la communication et donc du langage et des langues dans le contact avec l'autre.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanche du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.